La tête dans l'étagère, une émission quinzomadaire diffusée le mardi à 14h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Nicolas Renahi, qui a co-dirigé le livre Le mépris de classe, le point L'exercer, le ressentir, y faire face, qui est paru aux éditions du Croquant. Nicolas Renahi, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourrez un peu vous présenter pour nos auditeurs, quels sont un peu les travaux que vous avez faits? Vous avez écrit un livre assez intéressant il y a quelques années qui s'appelait Les gars du coin, mais vous avez travaillé aussi sur d'autres sujets.
Oui, donc je suis... Effectivement, Les gars du coin, c'était une partie de ma thèse qui avait été faite sur le monde des ouvriers ruraux, des ouvriers d'industrie dans le monde rural, et surtout pour les gars du coin de la jeunesse. Et puis après, j'ai travaillé sur d'autres objets, les élus locaux, par exemple. Mais en gros, ce qui m'intéresse, j'ai voulu préciser que je suis sociologue à l'INRA, donc INRAE, Institut de la Recherche Agronomique, donc dans un département d'économie et sociologie qui est modique par rapport à l'ensemble des recherches à l'INRA, c'est pas la fonction première, mais l'idée, c'est d'avoir des laboratoires de recherche qui travaillent, pour ce qui concerne le mien, sur les espaces ruraux contemporains, la manière dont ça se passe dans les campagnes. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'évolution des rapports sociaux dans les campagnes, avec plein de phénomènes très intéressants, la chute du monde agricole, mais sa persistance, son évolution interne, le fait qu'il y ait beaucoup d'autres catégories sociales, même s'il y a une sous-représentation des cadres, par exemple, et puis un monde ouvrier très présent au monde rural. C'est vrai, dans les travaux qui existent, on a souvent assimilé rural et agricole, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus divers que ça. Et en fait, quand on se met à l'échelle des espaces ruraux, les mondes populaires, ouvriers, employés, sont très très présents, proportionnellement plus que dans les villes.
Et ben là, pour l'entretien d'aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur l'ouvrage Le mépris de classe, mais on va aussi aborder un livre que vous avez écrit avec plusieurs auteurs sur la sociologie des classes populaires contemporaines. Alors, par rapport à cet ouvrage donc sur le mépris de classe que vous avez dirigé, il y a plusieurs auteurs qui s'expriment. En gros, vous dites que depuis les années 2000, au moins, l'expression mépris de classe, c'est devenu un peu une grille de lecture des rapports sociaux. Or, cette catégorie, elle a une longue histoire dans laquelle on peut voir un peu la honte sociale de ceux qu'on appelle ceux d'en bas, et aussi de ce qu'on appelle aussi les tranchuistes de classe. On peut aussi voir l'infériorisation de ce qu'on appelle aussi les subalternes par les classes supérieures. Tu pourrais un peu développer, voilà.
Oui, on voit à la fois effectivement la honte de soi chez les personnes dominées, mais aussi, ou les groupes dominés, mais aussi la haine des dominants parfois. On essaie de tenir les deux bouts. Alors en fait, effectivement, mépris de classe, c'est une catégorie qui n'a jamais vraiment été prise à bras-le-corps par les sociologues, et c'était un peu le pari du bouquin et de la démarche collective qu'on a pilotée avec Pierre-Emmanuel Sorinier, où en fait on a proposé à différents auteurs, différents collègues, se poser la question du mépris de classe. Est-ce que c'était une catégorie d'analyse qui était utile à leurs travaux? Qu'est-ce que ça permettait de voir des choses qu'on voyait pas ou autrement dans leurs écrits? Et en fait, dans l'espace public, par contre, c'est effectivement, comme vous le dites, depuis les années 2000, c'est devenu une grille de lecture assez récurrente chez certains hommes politiques, chez certains journalistes, qui la mobilisent aujourd'hui de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, puisque Marine Le Pen, ça fait partie aussi de son vocabulaire. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était, je le redis autrement, c'est de poser la question aux sociologues, et qu'est-ce que la sociologie a à dire à ça? Et en fait, on va pouvoir y revenir, je pense, mais l'idée de base, c'est qu'en fait, derrière le mépris de classe, il y a une économie des émotions de classe. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule un peu rude? Une économie des émotions de classe, c'est l'idée que les classes sociales, ce ne sont pas des choses abstraites, qu'on ne mesure qu'à partir de grands tableaux statistiques. Ça renvoie au fait que nous sommes tous des êtres sociaux, que nous avons tous des groupes d'appartenance, des systèmes de référence qui se côtoient et s'opposent par moments. Et il y a des moments dans lesquels, au cours desquels, le mépris de classe va plus émerger que dans d'autres. On pourra revenir sur les motifs tout à l'heure, mais la période contemporaine est effectivement très signifiante de cette résurgence de ce mépris de classe.
Et donc oui, vous parlez un peu donc de la façon dont un peu ce mépris de classe il est ressenti dans ce qu'on appelle les affects et leur traduction corporelle, donc au niveau du corps et des émotions physiques, tant chez les méprisés que chez qui les méprisent. Mais ce qui était aussi intéressant à voir dans votre livre, c'est que lorsque ce mépris de classe il est dit, il est exercé, parce que la plupart du temps, il est un peu silencieux et invisible, eh ben, ça devient un peu l'expression d'un moment où, de rappel à l'ordre, où l'ordre ordinaire de la domination, l'exploitation, il est perturbé. Donc, du coup, ça entraîne un retour, ça entraîne un rappel à l'ordre et aussi, dans l'autre côté, de la part des méprisés, une prise de conscience d'une domination. Donc, c'est assez intéressant aussi à souligner.
Exactement. Il y a ce que... Dans l'ouvrage, il y a une collègue, Amélie Beaumont, qui parle de mépris de classe routinisé, et ce qui se comprend bien au vu de son objet, puisqu'elle enquête auprès des salariés des grands hôtels de luxe. Et dans un tel univers social, professionnel, forcément, les hiérarchies sociales sont très marquées, puisqu'il y a des gens qui sont embauchés pour rendre des services à d'autres personnes qui, elles, sont très riches, ont un entre-gens, etc. Et donc, il y a des formes, même des formes de politesse qui peuvent être lues comme étant du mépris de classe, à minima, par ceux qui le subissent. Ça va être une petite remarque qui remet très poliment, même parfois très gentiment, le serviteur à sa place. Et puis, il y a des moments, et ça, on le voit beaucoup plus fortement dans l'ouvrage, des moments où le dominant se sent remis en cause dans son existence de dominant. Et là, à ce moment-là, c'est Bernard Nahir qui parle d'inconscient de classe, qui parle quand le mépris de classe s'exprime, c'est-à-dire que quand quelqu'un est remis en cause et qu'il est dominant, il va rappeler brutalement sa position au risque de blesser les gens qui sont en face de lui. Donc il y a beaucoup d'exemples dans l'actualité. La focale, c'est à chaque fois, on essaie de se mettre au plus près des interactions, parce qu'en fait, le mépris de classe, c'est quelque chose qui ne se quantifie pas, enfin qui serait très très compliqué à quantifier, à partir de quel moment on considère qu'il y a du mépris, comment référencer toutes les occurrences du mépris. Par contre, c'est quelque chose qui s'observe beaucoup dans le ressenti des uns et des autres quand on fait des entretiens, qu'on passe beaucoup de temps, comme l'a fait par exemple Amélie Beaumont en étant elle-même salariée des hôtels de luxe. Là, on est dans le quotidien et on voit comment les groupes sociaux se frottent les uns aux autres. Souvent s'ignore, mais parfois aussi se frotte, et voilà. Bon, je pense avoir répondu à la question. Je pourrais développer sur un ou deux exemples, mais on peut en rester là sur ce point.
Oui, et aussi il y avait quelque chose qui était assez intéressant. Il y a interviewé quelqu'un qui est chercheur aussi travaille sur un peu ce qu'on appelait la classe ouvrière et qui a aussi travaillé sur les migrations, s'appelle Gérard Noiriel, et lui, il dit qu'en tant que migrant de classe, puisque c'était un peu un transfuge, les humiliations subies, elles peuvent aussi s'accompagner de ce que lui, il appelle la dignité tranquille. Ça permet, dans le même temps, de faire face avec le mépris de classe, et du coup, pas comme une résistance, mais comme un genre de faire avec. Et lui, il dit le mépris,
en fait,
il renvoie...
Gérard Noiriel, quand on interview, il développe pas mal le cas de sa mère, qui a subi un mépris de classe de la part de sa belle-famille. Le père de Gérard Noiriel était un petit déclassé, son grand-père était un militaire, Gérard Noiriel, du côté de son père. Et en gros, c'était du point de vue des parents, au moins du père de Gérard Noiriel, le mariage entre son père et ta mère, et sa mère était un mauvais mariage, quoi. Et donc, du coup, à chaque fois que les beaux-parents venaient à la maison, Madame Noiriel faisait tout, se mettait en cadre pour qu'il soit bien reçu, que la maison soit propre, que les enfants soient polis, lavés, etc. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et face à ce... Alors ça, c'était le mépris violent qu'elle recevait en pleine face, et à chaque fois, ça la mettait mal. C'est ce que... Je n'ai pas relu l'entretien de Gérard Noiriel, mais je ne pense pas le trahir en disant ça. Par contre, il y avait aussi... Noiriel évoque son enfance, le fait de dans une famille nécessiteuse, donc devoir aller mendier, de s'inscrire dans des associations de patronage pour pouvoir bénéficier d'aide. Et là, la bienfaisance peut... très clairement être lu comme une forme de mépris, c'est-à-dire que c'est une manière de laisser le nécessiteux à sa place et de lui donner l'aumône, quoi, toute la violence qu'il peut y avoir derrière ce terme-là. Et c'est même pas par rapport à ça, ce mépris de classe était plus institutionnalisé, moins intime que dans la famille. Effectivement, la mère de Noiriel avait développé ce qu'il appelle une forme de dignité tranquille, qui l'a, semble-t-il, beaucoup nourri et qui lui a beaucoup permis, lui, de mieux vivre par moment sa migration de classe. Voilà, c'est quelque chose, voilà. Et cette forme de dignité tranquille, en fait, qu'elle, Alf Lutke, qui est un historien allemand récemment décédé, qui a développé, lui, la notion de quant à soi. Enfin, c'est la notion allemande d'Eigensinn qu'on peut traduire comme étant du quant à soi. Et c'est l'idée que quand on est dominé, quand on reçoit un ordre et qu'on n'a pas envie d'obéir, y a toujours moyen de se taire, de laisser parler le chef ou qui nous donne quelque chose, qui nous dit quelque chose, et puis écoute, toujours tu m'intéresses, quoi. C'est une manière d'avoir une assise, d'être sûr de ce que l'on est, de d'où l'on vient, ce qu'on répète souvent dans le langage courant, savoir d'où l'on vient, et mais avoir une force qui va avec. Voilà, c'est vraiment quelque chose et qui m'a été utile après pour analyser la trajectoire d'un ouvrier, ce que je fais dans l'ouvrage aussi.
Eh bien, on va faire une première pause musicale avant de continuer.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. Love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter Johnny Cash et le titre du morceau, c'était Ring of Fire. On poursuit notre entretien avec Nicolas Reney, donc à propos de l'ouvrage Le Mépris de Classe qu'il a coordonné, qui est paru aux éditions du Croquant. Et oui, donc dans ce livre, Le Mépris de Classe, il y a un petit chapitre où... Du coup, tu discutes avec un ouvrier qui apparaissait déjà donc, dans les gardes du coin, donc dans cette, un ouvrier du bâtiment. Donc, si tu pourrais un peu le raconter pour les auditeurs un peu de quoi parle ce petit chapitre.
Oui, bah, l'idée justement, c'est de travailler le mépris de classe à partir de cette notion de quant à soi. Donc Sébastien, c'est un vieil ami, c'est un ouvrier du bâtiment que je côtoie depuis une trentaine d'années. Et donc je l'ai vu avoir des enfants, je l'ai vu divorcer, je l'ai vu être célibataire pendant un moment. Et puis il y a quelques temps, il a eu une aventure avec une kinésithérapeute qui a duré 2 ans et qui s'est mal terminée et qui s'est terminée avec des mots violents. Puisque la kinésithérapeute lui a envoyé un SMS lui demandant de se casser de chez elle, lui et sa famille de Cassos. Et donc ça, je l'ai pas vu du point de vue de elle, mais du point de vue de Sébastien, l'ouvrier en question. Et effectivement, j'ai pu, s'il m'a sollicité, c'est aussi à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il était très fortement remis en question et qu'il n'était pas bien. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette trajectoire, c'est que d'une part, Sébastien, enfant d'ouvrier d'usine, orphelin de père très jeune, cadet d'une famille très nombreuse de 9 enfants, a développé, enfant, un fort quant à soi ouvrier, basé sur sur la famille, la parenté, sur la débrouille, comme il me disait en entretien. Dans notre famille, on n'est pas très haut, mais on est débrouillard. Et sur la solidarité de classe, le football, et toutes les sociabilités qu'il peut y avoir entre ouvriers. Mais c'est quelqu'un aussi qui a toujours voulu monter socialement, comme il me le disait, et donc qui a essayé de de s'installer comme entrepreneur à un moment donné, qui a déménagé plusieurs fois en essayant à chaque fois d'avoir une plus belle maison, voilà. Et puis qui, après son divorce, a donc cherché à côtoyer d'autres milieux sociaux. Et donc il est sorti avec cette kiné, et donc c'était une expérience sociale qui le faisait bouger socialement, qui le faisait en dehors du monde professionnel, puisqu'il continuait à trouver du bâtiment. Dans sa vie intime, il fréquentait quelqu'un qui avait d'autres références culturelles, qui avait d'autres réseaux sociaux, voilà. Et en fait, c'est le petit SMS exprime de manière violente le décalage qui s'était fait dans le couple, notamment autour de l'éducation des enfants. Puisque chacun venait dans le couple avec ses enfants des précédents mariages, et ça s'est très mal passé, puisqu'il y avait les cadets et les benjamins étaient en classe ensemble, mais la fille de Sébastien avait des très bonnes notes en primaire, et le fils de la kiné s'en sortait difficilement, et ses frères aînés étaient eux-mêmes, donc l'aîné des enfants de la kiné, étaient eux-mêmes en décrochage scolaire. Et donc j'ai analysé ça comme ça, c'est-à-dire que à un moment donné, la kiné, elle voit que les filles de son compagnon sont dans une pente sociale ascendante, tandis que ses fils sont pas bons à l'école, et dans le contexte contemporain où l'école est devenue incontournable, risquent de connaître un déclassement par rapport à elle qui est devenue kinésithérapeute. Et donc c'est aussi pour ça que qu'on dit collectivement que le souvent mépris de classe arrive quand la personne est déstabilisée, qu'il y a un danger qui pèse sur elle et qu'elle va exprimer ce mépris de classe. Et évidemment, en tant que sociologue, il s'agit de ne pas nous-mêmes mépriser les méprisants. C'est pour ce que j'ai essayé de faire en résumant l'histoire en quelques mots ici. Voilà. Et puis, donc, du côté de Sébastien, une fois qu'il commence à digérer cette rupture, il me dit, j'étais étouffé, j'étais sur un beau coussin, j'étais sur un coussin doré, il est temps d'ouvrir les yeux et d'en chier. Et en fait, pour moi, c'est une manière, il avait, en fréquentant quelqu'un d'un milieu socialement plus élevé que le sien, il avait un peu baissé la garde, c'est ce qu'il entend quand il dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux et d'en chier, et son quant à soi, c'était désarmé en quelque sorte, c'est son savoir-faire. Et donc du coup, ce qu'il a fait pendant les années qui ont suivi, c'est qu'il a réarmé son quant à soi pour se refaire une protection, mais bien sûr en tenant compte de aussi en bénéficiant de ce qu'il avait connu dans sa relation avec cette kinésithérapeute, dans le sens où maintenant c'est quelqu'un qui pratique des loisirs, qui va en concert, qui va de temps en temps au théâtre, qui lit un peu, enfin voilà, qui a ouvert son univers culturel par rapport à ce qu'il a connu avant cette relation.
Et il y a aussi dans cet ouvrage, donc le Mépris de classe, j'ai noté aussi que c'était assez intéressant. Donc il y avait ce passage-là, enfin où il était dit en gros hein, que donc les relations de domination et d'exploitation ne sont pas forcément limitées au monde du travail. Donc en fait les classes populaires elles sont aussi souvent soumises à des jugements moraux, à des jugements culturels, donc qui ne concernent pas juste leur cas professionnel, mais qui peuvent aussi donc concerner donc niveau scolaire, donc si on est en situation d'échec scolaire, leur présentation de soi, donc comment ils s'expriment, etc., etc., leur mode de consommation, enfin bref, tout un voilà, tout ça, et c'est des motifs, une liste de motifs comme ça qui valent un mépris du populaire, qui sont assez assez largement diffusés dans la société. Et ça, c'est assez intéressant. Et il y avait un exemple sur le candidat présidentiel qui était ouvrier. C'était Philippe Poutou pendant la campagne de 2002. Et par rapport à ça, c'était assez intéressant. Donc, c'était un peu développé sur ce chapitre-là.
Oui, oui. Alors, c'est Éric Darras, un collègue toulousain qui a suivi deux élections présidentielles, qui a fait des entretiens réguliers avec Philippe Poutou, qui l'a accompagné dans les médias, et qui a il développe pas mal dans le chapitre des exemples tirés d'observations sur les plateaux télé, où en fait Philippe Poutou a non seulement été méprisé par d'autres candidats, comme on l'a vu tous si on a suivi ces retranscriptions de débats à la télé, mais aussi par les journalistes. Et en fait, Éric Darras esquisse une petite sociologie de c'est un certain type de journalistes qui ne sont pas du tout préparés à avoir un ouvrier en face d'eux. Et surtout, s'il est candidat à la présidentielle, à leur décharge, Philippe Poutou est le seul ouvrier qui se soit jamais présenté au présidentiel sous la cinquième. Mais voilà, donc on voit à la fois ce mépris, mais on voit aussi comment Philippe Poutou, fait avec ce mépris. Comment il a appris en tant que militant. Et donc, ça va être, par exemple, toute la solidarité qu'il peut y avoir, les petits gestes sympathiques qu'il peut y avoir avec, entre guillemets, les petites mains des plateaux télé. Donc ça va être les maquilleuses, ça va être les caméramans, etc., qui sont, il le perçoit très vite, des soutiens, qui sont contents d'avoir quelqu'un qui est comme eux. Pas comme eux politiquement, idéologiquement. Ça dépasse ça. C'est comme eux, c'est-à-dire des gens qui sont des petites mains. Voilà. C'est des gens qui sont qui n'ont pas de pouvoir. Voilà. Et donc il y a ces formes de solidarité-là, qui sont des formes de quant à soi, parce que le quant à soi, c'est quelque chose qui est d'abord, je l'ai développé à partir du cas Sébastien sur une logique individuelle, mais c'est surtout, avant tout, une force collective. Et donc on le voit là, mais on le voit aussi à travers, chez Philippe Poutou, à travers le groupe militant, donc les collègues du NPA qui sont derrière lui dans les débats télé, et qui la simple présence pour lui va être un repère, une référence dans un monde qui lui est différent et bien souvent, il faut le dire, hostile. Et donc dans ses interventions, on peut aussi lui souffler des mots, mais en tout cas, c'est aussi des tactiques de contournement des moqueries subies qui sont apprises dans le collectif et qu'il va pouvoir ressortir quand il répond du tac au tac sur la question du procès à tel candidat, quand il répond à Marine Le Pen, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est le seul exemple qu'on a pris dans l'ouvrage avec un collègue qui traite de questions qui ont trait à l'espace public, mais on voit un peu les coulisses et on voit comment ça se passe concrètement, quoi. Donc ça, je trouve ça, c'est un des chapitres que je trouve très très intéressant dans cet ouvrage, puisqu'il touche à une forme de quota soit populaire qui, pour une fois, est donnée à voir dans un espace public on ne peut plus légitime, puisque ce sont les débats pour la présidentielle.
Eh bien, on va faire la deuxième pause musicale.
Well, you asked me if I'll forget my baby. I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You asked me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man and have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. Well, you ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another. I don't know, I can't say. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man and have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On écoute toujours Johnny Cash et le titre du morceau c'est Guess Things Happen That Way. Et on poursuit notre entretien avec Nicolas Renaï. Et maintenant, on va un peu s'intéresser donc à l'ouvrage collectif auquel vous avez participé en 2015. Ça s'appelle Sociologie des classes populaires avec plusieurs auteurs. Je ne me rappelle pas tout. Hein. Je sais qu'il y avait Isabelle Couton, Olivier Masclet.
Isabelle Couton et Olivier Masclet.
Voilà. Et du coup, c'était assez intéressant. En gros, on a déjà fait un entretien avec Cédric Lomba sur la classe populaire, mais ça, là, donc on a un peu parlé de la question, mais donc du coup, voilà, donc un peu pourquoi vous avez fait paraître cet ouvrage un peu qui résumait en gros toutes les recherches en sociologie qui avaient été faites sur la question.
Oui, en fait, l'idée c'était un peu de faire une synthèse d'un mouvement important quand même en sociologie française contemporaine, qui est en gros depuis les années 2000 le retour d'une grille de lecture en termes de classe sociale d'une part, et de nombreuses enquêtes empiriques sur les classes populaires. Alors on a entendu dans l'ouvrage les classes populaires comme étant les ouvriers et les employés, sachant que 85% je crois des ouvriers sont des hommes et 80% des employés sont des femmes. Alors ça a le désavantage d'exclure a priori certaines catégories professionnelles comme des petits indépendants qui peuvent être très proches des classes populaires, donc des petits entrepreneurs, certains agriculteurs, etc. Mais l'avantage énorme, c'est que ça permet de faire des comparaisons statistiques sur l'ensemble de la population française en prenant en compte les employés et les ouvriers. Voilà, l'idée c'était de faire un bilan de ces recherches, d'ouvrir des perspectives et aussi d'analyser des choses qui n'étaient pas forcément toujours bien vues, que ce soit bon, déjà, qu'est-ce qu'on entend par classe populaire. Donc il y a tout un premier chapitre qui revient sur les usages qu'il y a pu avoir, sur deux ouvrages marquants qui font que la sociologie en est là où elle est, donc Hogarth, La culture du pauvre, et Bourdieu, La distinction. Et qui surtout parlait des classes populaires. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses sur le rapport à l'école, puisqu'on est dans une période de forte massification scolaire, de sociabilité familiale ou de quartier, et puis de rapport à l'institution et aux politiques. Voilà, avec quelque chose qui est central et qui est aussi un des premiers chapitres, qui est bien sûr la question du travail et les évolutions qu'il y a eu au travail depuis une trentaine d'années. Et en termes d'inégalité, d'embauche, de conditions de vie au travail, et puis au-delà en termes de santé, etc. Donc c'est vraiment pensé, voulu comme étant un ouvrage de synthèse et qui souhaitait ouvrir des pistes pour de nouvelles enquêtes.
Oui, donc en fait, ça remettait un peu en cause l'idée de qu'on appelle la moyennisation de la société, pour dire qu'il y avait en gros une classe moyenne, qu'il n'y avait plus trop de les clivages de classe, ils auraient été un peu effacés. Enfin voilà, ça remettait un peu en cause cette idée-là qui était un peu pendant un temps un peu dominante. Quoi.
Oui, bien sûr, c'est le point de départ, quoi, l'idée de Madras, d'une société en forme de poire, en fait, avec une grosse classe moyenne, et un haut et un bas, un haut très petit et un bas de plus en plus qui s'amoindrissait. En fait, ce qu'on regarde, quand on regarde de manière un peu longue les statistiques, c'est que oui, il y a de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires en France. Oui, les classes populaires sont moins présentes massivement qu'elles ne l'étaient jusque dans les années 80. Ceci dit, un enfant sur deux naît dans un couple où au moins des parents sont ouvriers ou employés, et c'est toujours également un actif sur deux qui est employé ou ouvrier. Donc, en fait, il y a une forme d'aveuglement à vouloir absolument voir des classes moyennes partout, sachant que voilà, les classes moyennes, en plus, qu'est-ce que c'est ? C'est encore, alors il y a des collègues qui ont travaillé sur la question, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué à appréhender que les classes populaires ou les classes dominantes, puisque du côté des classes populaires, le point de départ, c'est que ce sont des personnes qui occupent un emploi subalterne, qui reçoivent des ordres, qui ont très peu d'autonomie dans le travail, et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire que l'espérance de vie, elle est de 7 ans inférieure à celle des hommes cadres pour les hommes ouvriers, qu'on va consommer plus de tabac, que la mortalité des employés d'ouvriers est beaucoup plus précoce, notamment du fait d'exposition aux maladies et accidents professionnels. Donc voilà, il y a un ensemble de faits objectifs qui attestent de la pérennité de ces classes populaires. Et puis, ce qu'on s'est aussi intéressé, bien sûr, au côté plus subjectif, à la manière dont ouvriers et employés vivent leurs conditions, et puis aux divisions internes, bien sûr, puisque c'est quand même un groupe qui... Est-ce que c'est un groupe ? Je ne sais pas, mais en tout cas, les classes populaires telles qu'on les appréhende, ce qui les caractérise depuis les années 80, c'est leur morcellement. On n'est plus à l'époque de la grande classe ouvrière avec un PC fort, des syndicats forts, même s'il y avait déjà des ouvriers de droite dans les années 70, même s'ils ont été sous-enquêtés. Aujourd'hui, le monde des classes populaires est très disparate, notamment, pas seulement, pour des raisons de collectif que je viens d'évoquer, mais aussi et avant tout pour des questions de conditions de travail, puisque c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Un exemple très simple, hein, la catégorie statistique, la catégorie socio-professionnelle des ouvriers stagne aujourd'hui, ce qui veut dire qu'elle a arrêté de baisser. Pourquoi ? Parce que d'une part, alors il y a les grands bastions ouvriers que l'on connaît, enfin les bastions industriels qui étaient le textile, la sidérurgie, la métallurgie, etc., eux ont beaucoup, beaucoup perdu en emploi. Par contre, des secteurs comme les services et les secteurs des ouvriers de la mobilité, en fait, je pense aux travaux de quelqu'un comme... excusez-moi, son nom m'échappe... terrible. Ah, bon, bref, peu importe, un collègue qui a travaillé sur ces ouvriers de la mobilité, qui bosse sur des plateformes, qui bosse pour Amazon, qui travaille dans des... Voilà.
Oui, c'est David Gaborio, non ?
Pour l'immense majorité, sont en contrat en intérim, ou alors en contrat à durée déterminée. Voilà, c'est Lucas Tranchant, le collègue qui a travaillé sur la question. C'est vraiment des travaux très intéressants. Et c'est une catégorie qui continue d'augmenter. Et l'état actuel du marché, on est en période de Noël, on fait nos courses. Voilà, le marché en ligne, y a des gens qui travaillent derrière pour aller chercher des cartons dans les entrepôts, les stocker, les classer, les mettre dans des camions, etc., et les livrer.
Voilà. Oui,
donc... Une des caractéristiques quand même qui ressort de notre synthèse, c'est effectivement ce morcellement des classes populaires et leur moindre représentation politique, puisqu'il y a beaucoup moins des partis se sont fermés à ces classes populaires à partir des années 80. Il y a eu des travaux sur le PC et sur le Parti Socialiste, mais il y a aussi eu des travaux sur le RPR et l'UMP ou sur le Front National qui montrent la même chose, quoi.
Et il y a aussi un chercheur très intéressant qui s'appelle Olivier Schwartz. Lui, il a écrit, je crois, c'était Le monde privé des ouvriers. C'était ça, je pense, de son livre. Et il avait fait aussi donc, un travail un peu de mémoire là, sur un peu la définition des classes populaires. C'est assez intéressant. Et entre autres, si je me rappelle bien, il disait que bon, c'était un peu compliqué à définir, que ce n'était pas un ensemble hétérogène, ni même un bloc indifférencié. Et par exemple, il y avait des fractions de classes populaires qui n'étaient pas nécessairement ni pauvres ni opprimées. C'était plutôt une histoire de soit de dépendance économique ou d'assujettissement économique d'un côté, mais aussi de dépossession de l'autre, sociale, mais aussi culturelle. Et voilà, tout ça, c'était un peu... voilà, c'est très, c'est assez complexe et subtil, un peu. Il y a plusieurs champs qui étaient un peu imbriqués là-dedans. C'était pas, c'était plus une seule classe ouvrière comme ça cohérente, mais voilà, c'était reconfiguré.
Et puis il y a aussi des classes populaires stabilisées et des classes populaires beaucoup plus fragiles. Effectivement, être salarié, fonctionnaire d'une petite, de la fonction publique territoriale ou autre, il y a toujours une question de statut, même si c'est des métiers dans lesquels des réformes d'État font que les conditions de travail, en général, ne s'améliorent pas, il y a quand même une forme de stabilisation, surtout si un ouvrier est marié avec une employée ou une ouvrière, mais qui a deux salaires, etc. Et donc c'est là que les mobilités sociales peuvent potentiellement se faire, puisque avec deux salaires, on a plus de moyens pour se loger correctement, pour éventuellement s'isoler aussi de certaines catégories que l'on craint. Et ça, c'est un des autres rapports d'Olivier Schwartz. C'est la question de la division interne aux classes populaires et ce qu'il appelle la triangulation d'espace social, où en fait, la définition de classe populaire, c'est, à partir d'une expression simple, c'est le haut et le bas, et donc le nous et le eux. Et ça, c'était quelque chose qui était très fort chez Richard Hogarth dans l'Angleterre des années 50 qu'il analysait. Schwartz introduit une autre catégorie qui est le bas. Et donc, c'est aussi pour ça que la catégorie, par exemple, de Cassos s'est beaucoup développée. C'est-à-dire que la stabilisation d'une majorité de classes populaires fait que ceux qui sont à peu près stables, potentiellement, ont peur pour eux-mêmes et pour leurs enfants, de retomber dans une précarité qu'ils ont connue par le passé, souvent. Et donc, du coup, la stigmatisation du cassos, elle est aussi vraie en interne aux classes populaires. Ça, c'est quelque chose qui est central dans la sociologie. Alors, je dis cassos parce que c'est le mot qui est très couru à l'époque, en ce moment, depuis quelques années. Mais effectivement, le terme de bas, est beaucoup plus... en fait, la triangulation de Schwartz, c'est haut, bas, fragile. Voilà, il y a le haut, ceux qui sont au-dessus de nous, les dominants, les bourgeois, etc. Le bas, c'est nous, et puis... le bas, c'est ceux qui sont en dessous de nous, et puis les fragiles, c'est nous, parce qu'il y a toujours le risque d'être instabilisé.
Eh bien, on va faire la dernière pause musicale.
I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a-moving, and that's what tours you see. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, then I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter Johnny Cash et le titre du morceau, c'était Folsom Prison Blues. Donc, on vient à notre entretien avec Nicolas Renaï. Et donc, on avait un peu évoqué donc, la sociologie des classes populaires contemporaines. Et ben, du coup, ça va peut-être nous ramener au mépris de classe, mais c'est quelque chose qui était intéressant aussi à remarquer. C'est que, bon, parfois, comme pour faire face un peu au mépris de classe qu'il aurait montré, les classes populaires, elles, qui n'ont pas trop de capital économique ou culturel, elles mettent en avant un capital soit corporel, travail, force de travail, etc., etc., capital moral, et un capital d'autochtonie. Vous avez assez un peu travaillé aussi un peu là-dessus. Et voilà, on pourrait un peu développer sur donc c'est aussi une forme de quant à soi aussi, mais de quoi ça parle, ce capital d'autochtonie. Vous avez fait un article assez intéressant par rapport à ça. Vous avez parlé aussi de l'histoire d'article de Jean-Claude Champoredon là, sur la chasse. C'était assez intéressant.
Oui, alors effectivement, sur le premier volet de la question, on peut dire communément que les classes populaires, elles sont massivement du côté, pas exclusivement bien sûr, mais du côté du faire, tandis que d'autres milieux sociaux, on voit être du côté de l'être ou de l'avoir. Donc l'être, ça va être le monde artistique, bien sûr, les intellectuels, on va chercher à s'épanouir soi, voilà. L'avoir, c'est plutôt du côté du capital économique. Et concrètement, quand on est chez les classes populaires, on est du côté du faire, c'est-à-dire qu'on, comme je disais tout à l'heure, on obéit à des ordres, mais avec ses mains. Que ce soit une caissière, une aide-soignante, un ouvrier d'usine, c'est les mains qui travaillent. Alors, le capital d'autochtonie, c'est autre chose. C'est un autre auteur, Jean-Noël Retière, a parlé, le met comme synonyme de capital social populaire. Donc, c'est l'idée que dans les milieux populaires, existent, comme dans tous les autres milieux, des réseaux, mais qu'ils sont plus volontiers à base locale. Et que, voilà, ce qui importe, moi, quand je suis arrivé sur mon terrain de thèse, par exemple, la première question qu'on m'a posée, enfin une des premières questions, c'est d'où tu viens, enfin qui t'es, quoi. Donc en gros, c'était quelle profession exerçaient mes parents dans l'espace local, j'avais grandi à 10 km de mon terrain de thèse, pour pouvoir être situé. Et ce fait d'être situé, c'est quelque chose qui est très important quand on n'a pas d'autres capitaux, que ce soit un capital symbolique, bien sûr, mais aussi économique ou culturel. C'est son capital à soi, c'est le fait de bien connaître son coin, ses voisins, ses proches, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on va bien s'entendre avec eux, mais ce qui veut dire qu'on connaît les gens, que c'est une forme de reconnaissance, être reconnu pour qui l'on est, du fait de sa renommée familiale, de son patronyme, du fait que son père était un bon électricien, qu'on aimait bien venir à faire à la maison parce qu'il n'était pas trop cher et puis il était sympa, etc. C'est un ensemble de ressources qui sont à base locale pour ces milieux-là, comparativement aux milieux dominants qui, eux, ont plutôt un capital international, qui ont une grande surface sociale, pourrait-on dire, à la Bourdieu. Voilà. Et par contre, ce qui est ce sur quoi j'insiste souvent quand je parle de capital d'autochtonie, c'est aussi une manière de faire du tri, de raisonner en termes de capital d'autochtonie. Des jeunes à la buvette du stade de foot, un jour, me disaient, de toute façon, si t'es pas de la famille un tel ou une telle, ici, t'es rien. C'est-à-dire, t'es rien, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir être pistonné pour trouver du boulot, tu peux pas prétendre à aller au conseil municipal, tu vas pas être soutenu, voilà. Donc, c'est une forme d'ordonnancement aussi, de hiérarchisation, interne au milieu populaire.
Et ça, d'une part, et aussi, d'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers ces histoires-là de mépris de classe ou de capital d'autochtonie, c'est qu'il y a un peu une distinction entre ce qu'on appelle un « eux » et un « nous ». Bon, c'était assez bien dit dans le livre de la culture du pauvre là, de Richard Hogarth. Il avait travaillé sur la classe populaire britannique, c'était dans les années 1950, ça date un petit peu. Et il me semble que dans l'ouvrage, donc Sociologie des classes populaires contemporaines, c'est un peu évoqué et que c'était aussi savoir si est-ce qu'il y a une ou plusieurs classes populaires, est-ce qu'on peut se constituer parce qu'il y a la classe en soi, il y a la classe pour soi, ça c'est le vieux terme marxiste, donc voilà, c'est aussi intéressant à mettre dans le débat. Et. Encore au-delà de ça, ce qui était aussi évoqué, c'est que notre société reste fondamentalement une société de classe où il y en a qui sont condamnés quand même à des activités subalternes et qui sont assez démunis sur bien des niveaux. Et que faire partie des classes populaires, c'est avoir des chances de vie limitées, subir différentes formes de domination qui rendent beaucoup plus improbables les perspectives d'ascension sociale. C'est un peu ce que j'en avais retenu, quoi. En gros.
Oui, alors, pour tout vous dire, j'ai pas très bien entendu la question. Mais sur le classe populaire au pluriel, ça c'était un préalable quand on s'est réunis avec les collègues autour de Yasmine Thibault. C'était l'idée que on parlait de la classe ouvrière, on peut pas raisonnablement parler de la classe populaire d'un point de vue sociologique, j'entends, hein, d'un point de vue politique, c'est une autre question. Mais d'un point de vue sociologique, les différences internes sont tellement fortes, surtout après la fragmentation des collectifs, au travail, dans les syndicats, dans les partis, le fait qu'il y ait de moins en moins de militants qui soient eux-mêmes appartenant aux classes populaires, ou du moins quand ils le sont, ils sont rabattus aux tâches subalternes, etc. La question des classes populaires, effectivement, ne peut, selon nous, ne se poser qu'au pluriel. Après, l'autre point que, à force de parler de classes populaires, de dominants, etc., l'ouverture de l'ouvrage, en fait, c'est sur la question des rapports de classe. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai travaillé sur le mépris de classe avec d'autres collègues après. C'est-à-dire que au quotidien, on ne fait pas que rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui sont de la même catégorie professionnelle que nous, qui sont, etc. Il y a de l'hétérogamie dans les mariages, il y a beaucoup. Voilà. Donc des classes sociales, ce ne sont pas des castes, tout simplement, pour le dire de manière simple. Et d'où l'idée de la nécessité de penser, de mieux comprendre les rapports interclassistes, les rapports de classe. C'est l'ouverture du bouquin, et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur le mépris de classe avec un autre collectif, pour voir comment les classes sociales cohabitent, se frottent ou pas, ou parfois arrivent aussi à bien s'entendre, bien sûr, autour de certaines activités. Il y a des travaux qui montrent que par exemple dans la chasse, dans la pratique de la chasse, il y a différents milieux, il y a beaucoup de gens qui sont très bien dotés, et puis il y a d'autres. Alors, ils s'entendent bien autour de la pratique. Pourquoi ? Donc il y a une passion commune, mais derrière ça, il y a une division interne du travail de loisir qui fait que ça permet de tenir. C'est-à-dire que là aussi, à la chasse, on va retrouver des petites mains, que ce soit bien évidemment dans la chasse à cours, où là, il y a des équipiers, etc., toute une structure très hiérarchisée, mais aussi dans des chasses communales ou des chasses domaniales, où les rôles vont être très, très bien répartis entre justement un gars du coin qui connaît beaucoup, qui a un petit salarié subalterne qui a, je ne dis pas ça de toute manière méprisante, mais objective, par rapport aux autres, qui a une très bonne connaissance de l'espace local, des forêts, des propriétés, chez qui on est, etc. Et puis d'autres qui viennent tous pratiquer un loisir et qui ne pourraient pas chasser sans cette personne qui connaît très bien l'espace local, quoi, le terroir, les propriétés, le foncier, et puis aussi les usages qu'il y en a. C'est-à-dire que tel agriculteur, est anti-chasseur et ne veut pas qu'on passe sur ses terres, c'est important de le savoir avant d'aller en chasse. Voilà, bon, ce sont des exemples très concrets, mais pour dire qu'il y a aussi un fort intérêt à travailler ces questions de rapport entre classes sociales, entre membres des différentes fractions de classe, et le travail collectif sur le mépris de classe en était un des exemples. Voilà.
Et ouais, par rapport à ça, moi j'avais. On peut aussi, la sociologie qui peut nous apporter des choses là-dessus, mais aussi à la littérature. Enfin, je pensais aussi à par exemple, il y avait Nicolas Mathieu là, qui avait écrit là-dessus. Donc, il y avait le temps pris Goncourt, mais avant aussi, il avait fait un livre qui était assez bien, c'était Aux animaux, la guerre. Et puis après, il y avait Leurs enfants après eux, c'était assez intéressant. Et dans un entretien, je ne me rappelle plus avec qui c'était, il me semble que c'était la revue Ballast, il lui disait qu'au-delà d'une simple opposition entre dominants et dominés, les classes sociales, en fait, c'est pas autant une pyramide avec une stratification vraiment nette et binaire que le regard, en fait, lui, il pensait que le regard sociologique, il mettait en évidence des écarts qui pouvaient être infinis. Il y aura toujours quelqu'un de plus pauvre en dessous de soi, il y aura toujours quelqu'un de, entre guillemets, plus cool au-dessus de soi. On rejoue toujours un peu le même jeu social, mais avec d'autres capitaux. Et il disait, ça rejoint un peu l'ouvrage sur les affects et leur tradition corporelle, que lui, dans son roman, il fait beaucoup parler les corps. Il dit que les corps sont toujours significatifs ou signifiants par rapport à cette histoire. Donc ça rejoint un peu l'histoire de traduction corporelle de mépris de classe.
Ouais, il y a une très belle, un très bel épisode dans son ouvrage qui lui avait pris Goncourt. C'est plutôt vers la fin de l'ouvrage, quoi. La fille issue de milieu plutôt aisé du coin. Dont a rêvé pendant des mois et des mois le fils de prolo qui galère. Quand il arrive enfin lors d'une fête, je crois que c'est le 14 juillet, je ne sais plus, à être seul avec elle, toute la maladresse des corps quand ils essaient de faire l'amour. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très bien vu, quoi. C'est-à-dire que effectivement, ce sont des êtres sociaux, y compris quand ils arrivent à essayer de faire l'amour ensemble, quoi. Et ils y arrivent très mal. Enfin, du moins, c'est le ressenti qu'en a le jeune homme, puisque c'est le point de vue qui est pris dans l'ouvrage. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très profond, qui nous façonne, qui n'est pas figé à vie, puisqu'on est issu d'un milieu, mais on a aussi des expériences tout au long de notre vie sociale qui vont nous modifier, qui vont nous comme de la pâte à modeler, en fait, comme une statue qui est en pâte à modeler, qui resterait malléable pendant un certain temps. Il y a une forme à la statue au départ, elle est là, et puis en même temps, avec le temps, elle s'adapte, elle se fige par moments, elle devient plus souple, etc. Donc voilà, c'est un peu, la manière dont la société fonctionne, du moins la manière dont moi j'essaie de la lire et de la diffuser.
Eh bien, on vous remercie pour cet entretien. Donc, on rappelle votre ouvrage que vous avez coordonné aux éditions du Croquant, donc Le mépris de classe, l'exercer, le ressentir, y faire face. Donc, avec vos autres collègues, c'était la sociologie des classes populaires contemporaines aux éditions Armand Collin. Et Les gars du coin, c'était aux éditions de La Découverte. Voilà, et ben on vous remercie et vous êtes bonne continuation.
Merci beaucoup à vous demain.
Au revoir.
La tête dans l'étagère, une émission quinzomadaire diffusée le mardi à 14h. Rediffusion le vendredi à 9h30.